bonsoir. Clôture hier lundi 13 mai de la réception des dossiers des candidatures des futurs membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Candidature unique pour les postes des présidents et rapporteurs du bureau définitif de l'Assemblée nationale a révélé le bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Tous les autres postes restants seront disputés entre plusieurs candidats. Pendant ce temps, plusieurs députés de l'Union sacrée ont manifesté leur opposition à certaines candidatures alignées par le présidium de cette plateforme politique. Selon la liste proposée par le présidium de l'Union sacrée, Serge Bahati est candidat à la questure et Christophe Mbosso revient au bureau définitif comme deuxième vice-président. Mais cet après-midi, Modeste Bahati, en sa qualité d'autorité morale de la FDCA, a retiré la candidature de Serge Bahati pour la remplacer par celle de Chimène Poli. Selon certains observateurs, il y a trop de frustration au sein de l'Union sacrée depuis l'annonce du ticket de cette plateforme pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Comment analyser cette situation? Nous en parlons ce soir avec Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir.
Joseph Kongolo, aussi avec nous dans ce studio. Il est analyste politique et coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Joseph Kongolo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et maître Willy Wenger, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Maître Willy Wenger, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous pouvez aussi suivre cette émission live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Les dépôts des candidatures à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale est clos depuis hier lundi. À part Vital Kamerhe et Jacques Joly qui postulent comme candidat unique au poste des présidents et des rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Tshilumbayi, Christophe Mbosso, Dominique Munongo, Serge Bahati et Caroline Bemba voient leur candidature court-circuitée par d'autres députés candidats au même poste. Michel Kifinda pour le reportage.
En dehors de Vital Kamerhe et Jacques Joly, candidat unique président et rapporteur de l'Assemblée nationale, les autres postes ont enregistré deux candidatures ou plus. À la première vice-présidence, la candidature de Jean-Claude Tshilumbayi de l'UDPS fera face à celle d'Ngoï Kassangi de l'AFDCA. Christophe Mbosso se dispute le poste de deuxième vice-président avec Antipas Mboussanya Mouissi et André Litté. Dominique Munongo de Ensemble pour la République est dans la cour contre Constant Mutamba pour le poste des rapporteurs adjoints. Serge Bahati, désigné par le présidium, se dispute la questure avec John Banza. Dédé Moupassa est dans la course avec Patrick Eshiba et Trésor Lutala contre Caroline Bemba, désignée par le présidium de l'Union sacrée, candidate questeur adjointe.
Merci Michel Kifinda pour ce reportage. Je rappelle que ce reportage a été réalisé avant le retrait de la candidature du député Serge Bahati par l'autorité morale du parti du regroupement politique AFDCA, le professeur Bahati Lukwebo. Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Au départ, on s'attendait à un ticket de l'Union sacrée, ticket qui allait mettre tout le monde d'accord. Malheureusement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une division. On a l'impression l'Union sacrée est presque divisée par rapport aux candidats proposés par le président de cette plateforme politique. Votre lecture?
Effectivement, on a le sentiment que le présidium s'est taillé la part belle dans la configuration du bureau, sans tenir compte d'autres acteurs qui représentent également un poids politique important. Vous prenez une plateforme comme AAP, qui est une force politique importante dans le bureau présenté par le présidium, l'AAP ne se retrouve pas. Conséquence, on a senti la fronde et vous allez voir que l'AAP a pratiquement aligné ses candidats à tous les niveaux, comme vice-président, comme rapporteur, comme questeur, y compris comme questeur adjoint. Et donc, on a cette levée de bouclier, parce que non seulement on n'a pas tenu compte des équilibres géopolitiques, par exemple, dans le ticket présenté, vous avez un Serge Bahati du Sud Kivu et un Kamere du Sud Kivu sur cette poste, et vous aviez également cette non-représentation d'autres forces politiques. On pourrait parler de l'ANB, la plateforme Assama Lukonde, qui ne se retrouve pas non plus dans la configuration. Donc il y a cette grande part taillée par le bureau, par le président lui-même, et puis on peut ajouter cette forme de népotisme qui dérange, le fait qu'on retrouve les mêmes noms, les fils d'eux qui reviennent, la sœur d'eux qui reviennent, et qui donne le sentiment qu'on a une forme de prise en otage de la grande majorité par quelques intérêts particuliers. Et ça également, ça a été un élément de plus et qui a amené cette fronde qu'on assiste aujourd'hui.
Donc la fronde est justifiée, selon vous?
La gestion des ambitions, c'était prévisible déjà par la taille de la majorité. Une majorité aussi large, sans grande discipline, on pouvait s'attendre forcément à de la frustration. Maintenant, au-delà du fait que cette majorité est hyper large, avec plus de 400 députés, au-delà du fait que le président aujourd'hui ne représente plus la vraie force politique en termes de poids réel. Si vous prenez par exemple un Mbosso, qui est membre du Présidium, qu'il a été avant la mise en place, avant les élections, mais aujourd'hui Mbosso a 9 députés avec la ACRD. Ça veut dire qu'en termes des rapports de force, il reste membre du Présidium, mais en termes des rapports de force, il n'a pas le poids politique d'un AAP. Or, lorsqu'on décide, il fait partie de ceux qui décident, alors qu'en termes des rapports de force, après les élections, il ne représente plus les vrais acteurs qui contrôlent la majorité. Donc il y a ce travail là également, peut-être que l'Union sacrée fera après la mise en place du gouvernement,
celle
de redéfinir le Présidium et la coordination tenant compte des vrais nouvelles rapports de force. Et donc il y a tous ces enjeux là qu'il faut prendre en compte. Après, c'est aussi le fait que vous avez un Mbosso par exemple qui tient mordicus à rester au bureau et qui est à l'origine de tout ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il tient manifestement à rester au bureau. Il a tenté comme speaker, ça n'a pas marché. Maintenant, il se rabat au niveau du deuxième vice-président. Et donc, tant qu'on ne gérera pas très bien les ambitions à la fois des membres du Présidium que d'autres membres du regroupement, eh bien, on assistera toujours à ce genre de frustration et à ce genre de scénario.
Et dans tout ça, certains Congolais se posent la question de savoir pourquoi l'autorité morale de la majorité est silencieux. Pourquoi il dit rien par rapport à tous ces désordres que l'on observe au sein de sa plateforme, de sa famille politique?
Effectivement, le président est très effacé et c'est assez étonnant parce que le président, déjà comme mode d'organisation horizontale du pouvoir, est un problème. Vous avez des gens qui sont à la fois juges et partis, parce que étant eux-mêmes partis en compétition, ils sont à la fois arbitres et acteurs. Et donc, il était très logique qu'on le voie à réagir. Peut-être qu'il s'est dit, où je suppose qu'il refuse d'agir, sinon il prendrait la même posture que son prédécesseur, à savoir des Kingakati bis, où on réunirait autour de lui les différents camps politiques et qui serait amené à arbitrer. Aujourd'hui, apparemment, il laisse ses différents alliés s'opposer et ne veut pas jouer ce rôle d'arbitre qui lui revient en principe en tant qu'autorité de référence pour donner les directives. Donc on verra bien jusqu'où il va se taire, parce que de certaine manière, ça va remonter sur lui. Il s'agit de son image qui est cornée.
Joseph Kongolo, vous êtes aussi analyste politique et coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Quelle est votre lecture à vous ce qui se passe au sein de la famille politique du président de la République?
Merci madame. Je crois que en plus des analyses faites par mon ami Christian Amoleka, il y a un élément important qu'il faut souligner ici. C'est que nous avons constaté effectivement que dans le chef des acteurs politiques, il manque ce qu'on appelle la culture politique sécularisée. Ça veut dire que le bon sens, la responsabilité et la conséquence, ce sont des éléments capitaux qui constituent le soubassement d'une culture politique solide et qui doit être le nerf, pratiquement la sève du fonctionnement d'une démocratie. Fort malheureusement, dans le chef de chaque acteur politique, particulièrement des présidiums, parce que c'est le président dont il est question aujourd'hui, on a trouvé qu'il y a cette culture paroissiale. Ça veut dire que le regard politique, l'action politique, tout tourne autour de la famille, et si ça va plus loin, c'est autour de la tribu. Malheureusement, ils sont limités là, ils ne sont pas allés au niveau de l'intérêt général, au niveau de l'intérêt national. Ce qui veut dire tout simplement qu'ils ont privatisé l'intérêt général. Donc, ils ont pris l'intérêt général comme un bien privé, de ce présidium ou encore des porteurs du pouvoir aujourd'hui, en commençant par le président de la République lui-même, qui est le chef numéro un de cette plateforme. Donc, voyez-vous, nous sommes donc dans une démocratie qui n'a pas un socle solide, ou une démocratie sans démocrate, au fait. C'est ça exactement le comportement que les uns les autres affichent. Et ça, c'est un mal qui ronge vraiment et la République, mais aussi la démocratie que nous voulons, n'est-ce pas, de tout vœu dans notre pays. Ça, c'est un élément très important. Deuxième élément. Vous savez, madame, une société sans un leadership éclairé, c'est une société perdue. Et je ne sais pas. Je sais qu'il n'y a que deux façons de gérer les entourages des chefs. C'est soit laisser l'entourage se déchirer, des guéguerres autour du chef, une façon d'imposer, n'est-ce pas, un certain pouvoir sur eux, soit on gère carrément les choses, c'est-à-dire on établit une certaine ligne disciplinaire là où la décision du chef est exécutée de plein droit. Alors, est-ce que le président de la République a choisi de laisser les guéguerres autour de lui pour les affaiblir, peut-être avoir une possibilité, n'est-ce pas, de les adopter? Ça veut dire d'imposer un pouvoir fort sur eux, après s'être déchiré, n'est-ce pas? Et c'est laissé nu, en fait, auprès du chef. Nous ne savons pas. Mais au moins, par la vision générale de la population aujourd'hui, on sent l'absence du leadership. On sent l'absence du leadership. Voyez-vous? Et ça, pour la population, ça risque d'être lu comme étant une faiblesse de leadership. Voyez-vous? Mais si c'est une stratégie que le président a prise, tout simplement pour laisser se déchirer, n'est-ce pas, cet entourage, une façon d'imposer un pouvoir fort ou encore de résoudre le problème en dernière minute.
Mais entre-temps, le temps est en train de passer. On attend la mise en place effective des institutions de la République. Le chef, il va continuer à observer jusque quand?
Non, c'est-à-dire que les échéances sont déjà fixées. Les échéances sont déjà fixées, n'est-ce pas? C'est au 18 qu'il y a élection au niveau du Parlement.
On espère que la date ne va plus changer.
Ah, évidemment, nous espérons tous qu'on ne va pas changer. Mais ce que je déplore ici, c'est que la ligne politique prise par le président de la République, ou l'exercice du leadership à la tête d'une grande machine comme l'Union sacrée, je crois qu'il aurait fallu qu'il y ait une discipline stricte à l'intérieur. Ça va d'abord, ça ne va pas éclabousser d'abord l'image, n'est-ce pas, de la plateforme, et en même temps, ça ne va pas éclabousser le président de la République qui est le symbole de cette image. Voyez-vous, moi je crois que ce serait la meilleure façon de gérer la plateforme plutôt que de laisser pas même la liberté, c'est une sorte de libertinage. Regardez ce qui s'est passé, c'est que Christian Venedi dit tout à l'heure, deux provinces qui veulent être représentées dans un bureau de 7 personnes sur les 26 provinces. Je crois que quelque part il y a une folie. Il y a une folie. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on sent tout de suite qu'il n'y a pas une culture qui peut soutenir, n'est-ce pas, cette démocratie. Par conséquent, le leadership qui doit être éclairé, n'est-ce pas, et transformationnel, devrait supplier à cette carence d'une culture politique démocratique par une discipline forte, question de mettre de l'ordre et peut-être aussi faire école dans cette façon de gérer les plateformes.
Alors, je l'ai dit, plusieurs députés de l'Union sacrée ont manifesté leur opposition à certaines candidatures alignées par le présidium de l'Union sacrée. Certains auraient souhaité que les décisions se prennent entre les chefs des différents regroupements politiques et non limiter cela au présidium.
Je crois que Christian l'a dit tout à l'heure, c'est que le rapport de force à l'intérieur a totalement changé après les élections législatives. Ce qui veut dire en principe que la réforme devait être faite peut-être avant. Ils ont eu tout le temps. Les élections c'était au mois de décembre. Nous sommes au mois de mai. Ils ont eu tout le temps, n'est-ce pas, de reconfigurer pratiquement le rapport de force à l'intérieur. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Ce qui fait que ce présidium n'a pas le pouvoir politique nécessaire pour imposer sa loi. Voyez-vous? Comment voulez-vous quelqu'un qui a 32 députés, par exemple, comme la plateforme de l'ancien Premier ministre, contre Mbosso qui n'a que 9? Voyez-vous? Et donc, il y a un déséquilibre fort. Ce qui est vrai, c'est qu'ils ont perdu le poids pratiquement sur la base, et il faut reconfigurer ça dans le présidium et peut-être même chercher d'autres manières de gérer cette plateforme. Pour essayer un peu d'être efficace sur le terrain, sinon ces guéguerres risquent d'empiéter sur le fonctionnement des institutions.
Alors cet après-midi, le professeur Baïti a retiré la candidature de son fils qui était proposée par le présidium au poste des questeurs. On peut dire que c'est à cause de la pression qui a eu sur le présidium.
Effectivement, c'est à cause de la pression. C'est ce que je n'ai pas apprécié.
Sans
dans le chef.
Ça, il n'aurait pas retiré, selon vous, cette candidature.
Bien sûr. Bahati a donné l'ordre à ses députés nationaux de voter pour Vital Kamerhe, au nom de la province de Sud-Kivu. Mais de quel droit va-t-il encore déposer la candidature de son fils? Non, c'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est sûrement à cause de la pression qu'il a retiré. Et ça, je n'ai pas souhaité. Le professeur Bahati, un homme qui a fait la politique, qui est sur la scène politique depuis des années, arrive à oublier les principes clairs de la gestion de la politique d'équilibre géopolitique. Je crois que ça, ce n'est pas une bonne presse pour lui, ce n'est pas une bonne image pour lui, même si finalement il a retiré cette candidature, il n'a pas retiré la candidature de son fils pour la candidature d'une dame du Olomami. Je crois qu'il n'aurait pas fait cette erreur, il devait commencer par chercher à confirmer cette dame plutôt que faire un jeu d'essai erreur avec son fils. Je crois que ce n'est pas à sa taille, à son image politique.
Maître Willy Wing, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Quelle analyse vous faites de la grogne au sein de l'Union sacrée de la nation à propos de l'élection, à propos des candidats proposés pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale?
Merci beaucoup, madame. Merci à Christian, merci à Joseph. Je pense que moi, je ne ferai pas la lecture comme est l'ont fait en fait que eux deux sont des analystes politiques. Moi, je vois les choses sur le point de droit, sur l'angle de droit. Et je me dis quelque part que ce qui est tenté d'arriver à l'Union sacrée, ça montre à suffisance d'une part qu'il y a un problème, non seulement des textes qui organisent l'Union sacrée elle-même, mais aussi de la discipline au sein de cette union, outre que la manière dont les choses se passent prouve à suffisance que les uns et les autres n'ont pas beaucoup intériorisé les textes fondateurs de cette union. Je suis très certain que si déjà au niveau de l'union sacrée, les textes fondateurs, c'est-à-dire que les statuts ou le protocole entre différentes différents regroupements qui font partie de ces plateformes politiques qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Si son contenu était intériorisé, certainement une discipline serait observée et on n'arriverait pas à ce qu'on est en train de vivre. Il faut reconnaître que lorsque on est en démocratie, et là je salue ce que mon ami Congolo Joseph a dit, parlant de la culture politique démocratique, c'est que nous parlons de la démocratie, mais plus d'une fois, on constate que ceux-là qui sont appelés demain à animer le temple de la démocratie sont eux-mêmes qui ne veulent pas se soumettre à cette démocratie-là. Vous savez, avec l'histoire du bureau de l'Assemblée nationale, c'est un bureau important qui devrait en tout cas conformément aux textes fondamentaux, ici la Constitution, la loi ainsi que les règlements propres à l'Assemblée nationale, le bureau devait refléter l'image de la République, c'est-à-dire que si on ne peut pas avoir 26 membres au bureau, au moins que les membres du bureau soient les représentants de grands ensembles en termes de la configuration de nos anciennes grandes provinces. Mais tout cela porte à faire croire à quoi? C'est que la cacophonie qu'il y a souvent lorsque tout le monde est appelé à se prononcer sur une question donnée, fait qu'au niveau de l'Union sacrée, le présidium a pris de temps en temps l'initiative de décider à la place du grand ensemble, certainement après la concertation des uns et des autres. Lorsque vous voyez la grogne qui se présente et venant beaucoup plus de présidents de partis politiques et de mouvements politiques membres de l'Union sacrée, j'ai suivi ces deux 48, ces dernières 48 heures ici, comment est-ce que presque tout le monde aille à lever le bouclier et voir même certains qui ont commencé à déposer leur candidature au bureau définitif, ça montre qu'il y a un malaise, il y a un sérieux problème, il faut vite réglementer, il faut vite résoudre pour éviter que l'Union sacrée ne s'éclate pas. Et à défaut de s'éclater publiquement, il y a beaucoup de craintes de voir cette plateforme qui constitue la majorité à l'Assemblée nationale devienne une plateforme comme un géant au pied d'argile, parce que demain, beaucoup qui ne se prononcent pas en public en termes de paroles à prendre vont commencer à voter contre les positions de l'Union sacrée, contre les positions de la majorité. Deuxièmement, je voulais ici préciser et rappeler que, quelque part, le présidium de l'Union sacrée a perdu de vue qu'en tant que plateforme, l'Union sacrée n'a pas présenté des candidats aux élections. Ce sont les regroupements qui ont présenté les candidats aux élections, et ces regroupements ont des personnalités juridiques, ces partis politiques ont des personnalités juridiques que l'Union sacrée n'a pas jusque-là. Et considérant tous ces éléments-là, lorsque on parle de la majorité comme famille de provenance de tel ou tel autre candidat, cette majorité-là ne suffit pas seulement l'Union sacrée, ou cette majorité-là ne suffit pas l'Union sacrée prise en bloc, mais tout le regroupement de l'Union sacrée peuvent se dire que tel poste est le poste réservé à nous de la majorité, et chaque regroupement, chaque parti politique de cette majorité-là peut être candidat à tel poste. Mais revenant à l'acte que vient de poser l'honorable Bahati, ce jour, en prenant la décision au sein de ce regroupement AFDCA de retirer la candidature de son candidat Kester, moi je considère, contrairement à ce que mon frère congolais a affirmé tout à l'heure, que c'est un acte de courage, c'est un acte de bravoure, c'est un acte de sens élevé de l'écoute. C'est-à-dire que si on considérerait le fait de désigner l'honorable Serge Bahati comme candidat Kester était une erreur, ou était ceci ou cela, mais cette force, cette capacité à écouter certains critiques, à écouter certaines observations, ou à écouter les demandes des autres, et à décider de retirer cette candidature-là, ça montre à suffisance que si il a donné cette candidature de l'honorable Serge Bahati, ce n'est pas seulement parce que son fils, mais parce qu'il considère que c'est un membre de son parti, et pour démontrer qu'il n'est pas tellement tenu au fait que cet député là soit son fils, mais c'est un député comme tout le monde a sa famille politique, il a retiré et remplacé par un autre membre d'une autre province pour chercher l'équilibre que nous voulons tous, dès lors que, quand même, c'était flagrant qu'on ait la seule province ici qui vous avec des membres, et que qu'on ait la province de le Grand Équateur avec des membres aussi, alors qu'il y a d'autres provinces qui sont là et qui n'ont pas des candidats à ces bureaux-là. Donc la cacophonie qu'il y a aujourd'hui à avoir maintenant plusieurs candidatures, alors que l'Union sacrée croyait résoudre le problème en optant pour un seul candidat, ça montre aussi la chaleur de la démocratie. Et je suis rassuré, et je pense que les électeurs vont tout mettre en œuvre pour quand même donner à la province du Nord, Kivu par exemple, un porte-parole au bureau. Lorsqu'on a Mboussa Nyamwisi comme candidat, deuxième vice-président, en le votant, je suis sûr et certain que c'est donné, c'est de faire justice au Nord Kivu, et l'honorable Mbosso, qui est aussi candidat, bien sûr, il est le plus vieux de l'Assemblée nationale en termes d'âge, en termes de sagesse, mais la sagesse de Mbosso peut toujours jouer en dehors du bureau, parce que au niveau de l'Assemblée nationale, il y a aussi ses conseils des sages, et où l'honorable Mbosso peut jouer un grand rôle.
Merci.
Et Mboussa Nyamwisi restait au bureau définitif comme porte-parole de toute cette partie de l'Est.
Alors, vous plaidez pour la représentativité des provinces au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Menswa Willy Wenga. On va vous redonner la parole tout à l'heure, mais en attendant, on va prendre ces auditeurs qui appellent, qui veulent aussi donner leur point de vue par rapport à la question du soir. J'allais dire du jour à la question, à notre débat de ce soir. On va se rendre à Bukavu Sud Kivu pour écouter cet auditeur.
Accent Kishengamung Olivier depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. La situation actuelle au sein des lignes sacrées de la nation montre qu'il y a des tensions et des frustrations parmi les députés de cette plateforme politique concernant les candidatures pour les postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Cela élève du manque de consultation dans les chefs des autorités morales des partis politiques qui devraient en principe consulter les directoires de leurs partis politiques avant de désigner les candidats au poste. Les choix des candidats devraient tenir compte d'abord de la compétence et puis de la géopolitique pour que tous les coins du pays puissent être valablement représentés. Il est tout de même important de prendre en compte les différentes sensibilités et aspirations au sein du groupe parlementaire afin d'éviter des divisions qui pourraient affaiblir l'union sacrée et les objectifs communs qu'elle poursuit. Il est également essentiel de favoriser la compétence et les concertations internes pour trouver des solutions et des compromis qui puissent être inclusifs.
Christian Molécar.
Je partage son point de vue, le point de vue d'Accenti, mais ça peut s'expliquer politiquement. Quand vous avez par exemple Jean-Pierre Bemba, qui est membre du Présidium, mais si vous avez qui n'a obtenu que 26 députés, ça veut dire si vous prenez l'approche consultative qu'il propose, il perdra en poids en négociation. Parce que, je l'ai déjà rappelé, vous avez un Présidium qui ne correspond plus au nouveau rapport de force. Et puisqu'ils n'ont pas pris la précaution, peut-être parce que ça arrangeait certains, de rééquilibrer les forces en début de législature, donc en début d'année, ceux qui sont au Présidium ont intérêt à garder l'équilibre actuel qui les favorise. Donc il y a ce jeu de positionnement des acteurs selon les intérêts qui se posent. Effectivement, je partage également le fait qu'on n'a pas de démocratie interne au Congo. Très peu de partis politiques développent une démocratie interne. Nous aimons parler de démocratie, John Kongolo l'en parle, Joseph Kongolo en a parlé, mais c'est la démocratie de l'espace public, médiatique, élections, mais à l'intérieur des partis politiques, il y a très peu de démocratie. Je ne pense pas que même au sein des partis politiques qui ont présenté les candidats, on a fait ce travail de discuter, d'écouter, et à la fin de proposer sur base d'un consensus. Nous avons toujours une approche où les autorités morales prennent les décisions finales et qu'ils proposent au nom des formations politiques. Donc oui, il faut travailler à plus de démocratie interne, il faut travailler à l'architecture de l'union sacrée pour que les rapports de force qui sortent des urnes soient les reflets de la gouvernance politique. Il faut travailler à plus de concertation et je crois que là nous avons les signes des lignes de fracture qui se mettent en place. Et qui prouve que les rapports des forces en politique, on dit que la crise est l'expression de l'évolution des rapports des forces. Et donc, si on ne rééquilibre pas les rapports de force, eh bien, la crise va se consolider. On pourra demain assister à une forme de sclérose.
Vous êtes très nombreux à nous suivre aussi sur la page Facebook de Radio Okapi. Emino Pascal depuis Bukavu Sud Kivu, le retrait de la candidature de Serge Bahati par le professeur Bahati Lukwebo n'est qu'un jeu politique. Je ne trouve rien de courageux dans cette démarche. Néanmoins, je constate que les institutions de l'État sont prises en otage par certains individus et cela n'augure rien pour les citoyens lambda. Merci à cet auditeur qui nous suit depuis Bukavu, Désiré Ruta, depuis l'Afrique du Sud. Notre pays n'a pas de chance. Si on regarde comment le bureau de l'Assemblée nationale veut se former, ça ressemble à une entreprise privée. Comment expliquer que le Présidium veut présenter leurs membres des familles? C'est comme le parti ou regroupement politique, c'est comme si les partis ou regroupements politiques n'ont pas d'autres personnes qui peuvent assumer ces responsabilités. Après Bukavu, on va aller à Lubumbashi pour écouter cet autre auditeur.
Moi, c'est Dieudonné Bangé Fils. Hein. J'interviens depuis la ville de Lubumbashi, dans la province du Katanga. D'emblée, je dirais qu'il est de bon aloi qu'une famille politique s'organise en vue d'aligner les candidatures uniques dans un exercice démocratique. Question que si jamais une brebis galaise est élue par imprudence, ne puisse leur compliquer la tâche dans la bonne gouvernance. Mais là où les bas blessent, c'est lorsqu'une autorité morale d'un parti politique, parce que étant parmi les décideurs dans les présidiums de l'Union sacrée, puisse peser de tout son poids pour léguer sa notoriété aux membres de sa famille, en foulant aux pieds, bien entendu, les sacrifices des autres combattants de l'île du parti. D'où cette oligarchie criante au sein de la classe politique congolaise est à décourager avec la dernière énergie. Encore faudra-t-il rappeler ici que le népotisme est très récurrent dans notre pays. Ceci étant, en tout cas, moi je demanderai personnellement aux élus conscients de ne pas donner mandat à un candidat issu du clientélisme. D'ailleurs, j'ai déjà un sentiment de soulagement car je viens d'apprendre que M. Bahati Lukwebo, autorité morale de l'AFDC, vient de solliciter le retrait de la candidature de son fils après clameur publique. Bravo à ces vaillants élus qui ont manifesté leur ras-le-bol. Merci.
Joseph Kongolo.
Bien, je crois que la question est très sensible. Christian disait tout à l'heure qu'il n'y a pas une démocratie interne. Or, dans la gouvernance politique, madame, il y a deux logiques. Il y a le up-down, c'est-à-dire le sommet consulte la base et tire des décisions qui correspondent à la volonté de la base. Et il y a le bottom-up, ça veut dire la base inspire les décisions du sommet. Très malheureusement, ça n'existe pas ici. Si vous allez chez FDC, vous posez la question si effectivement la base a été consultée pour la candidature de Bahati. On vous dirait qu'on n'a pas été consulté, le chef est souverain ici, c'est lui le chef de la boutique, il prend des décisions, il nous informe. Effectivement, quand on n'a pas cette base, quand on n'apprend pas la démocratie au niveau de la base, particulièrement dans le personnel politique, on ne peut pas espérer avoir une démocratie au niveau institutionnel qui soit solide et durable. On ne peut pas espérer. Et très malheureusement, c'est ce que nous vivons ici. Donc nous avons un semblant de démocratie, c'est une coquille, mais le contenu est totalement vide. Donc c'est exactement ça qui nous amène dans un dysfonctionnement. Dans le dysfonctionnement, d'abord la démocratie, au niveau de la société des institutions, et puis au niveau des institutions, et ça va déséquilibrer pratiquement la République, ce qui fait que le développement est difficile dans un environnement hybride. Le développement est très difficile. Parce que cette guerre va continuer dans les institutions. Imaginez-vous, demain, on risque d'évincer tel ou tel, il va revenir encore son fils, l'autre va faire revenir encore sa petite sœur, l'autre va dire, ah, mais cette fois-ci, je peux quand même déposer mon épouse. Voyez-vous? Donc, il y a un problème. Il faudra qu'il y ait des structures internes au niveau des partis politiques, au niveau des institutions politiques particulièrement. On doit apprendre les gens les valeurs de la démocratie. Et ici, chez nous, notre démocratie est enrichie par ce qu'on appelle la géopolitique. Nous, c'est un élément de taille dans notre démocratie institutionnelle ici. Alors, si on ne tient pas compte de ces réalités locales, on ne tient pas compte des principes généraux de la démocratie. Moi, je crois qu'on est en train de naviguer à vue et demain, on n'a pas de chance d'avoir des institutions stables et durables. Et cette illégitimité, non seulement au niveau institutionnel, mais au niveau des sous-ensembles comme les partis politiques, va faire éclater les sous-ensembles, les partis politiques et tout ce qu'on appelle les microcosmes politiques. Et quand ces microcosmes vont exploser, eh ben, nous n'aurons pas la possibilité de vivre une véritable démocratie et espérer qu'il y ait le vecteur d'ailleurs de développement et espérer un développement demain. Donc je crois que les partis politiques, les institutions doivent déjà mettre des structures qui doivent apprendre, n'est-ce pas, des valeurs démocratiques au sein des microcosmes politiques.
Merci. David Wedi, depuis Kinshasa, les membres de l'Union sacrée ne sont là que pour leurs intérêts égoïstes. Le président de la République devrait s'impliquer car à la fin du mandat, c'est lui qui devra présenter le bilan. Mwalimu Ibrahim Kakwenda Wambaya depuis Lubumbashi, tout ce qui se passe au sein de l'Union sacrée pour le moment, c'est une leçon pour tout le monde. Merci à Emmanuel Paris qui nous suit depuis Ariwara. Vous êtes très très nombreux sur la page Facebook de Radio Okapi à suivre cette émission. Merci à Sami Ngindou depuis la ville de Kindu dans la province du Maniema. Si le prof Bahati n'a pas encore récupéré la candidature, retiré la candidature de son fils, qu'il puisse retirer ça avant le matin.
il est en retard, hein, Junior Sami Ngindou. Le professeur a demandé le retrait de la candidature de son fils. On va prendre ces derniers auditeurs qui nous appellent depuis Kisangani dans la province de la Tshopo.
C'est M. Blaise Saïd, à Tshopo de Kisangani, la ville de Kisangani de la province de la Tshopo. La liste proposée par le président montre bien qu'il n'y a pas un consensus. C'est du népotisme. C'est pourquoi d'autres candidats sont mécontents qui reviennent à même exercice. Pourquoi les primaires étaient seulement au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale? D'autres postes, c'est du népotisme. Nous ne pouvons rien espérer de ce Parlement vu la manière où l'Union sacrée se comporte. À mon avis, il n'y a pas un climat au sein de l'Union sacrée.
Vous allez nous excuser vraiment pour la qualité de la ligne de Blaise Saïdi qui nous a appelé depuis Kisangani dans la province de la Tshopo. Maître Wenga, en conclusion, cet auditeur dit qu'il faut rien espérer de ce Parlement vu la manière dont les choses sont en train de se passer, vu comment les députés se comportent.
Madame, il faut toujours espérer, sinon on laissera ce pays à qui? Parce que dès lors que on commence à désespérer, on commence à se décourager, c'est vraiment faire le lit de l'ennemi, le lit de l'adversaire. Ce qu'il faut faire, c'est de se comporter en véritable nationaliste, en termes d'aimer le pays. Il faut aimer notre pays, c'est dire que comme sur le plan institutionnel, au niveau des textes, au niveau de la Constitution, nous sommes engagés à être un pays démocratique. Il faut respecter et observer les règles démocratiques partout. C'est-à-dire que même au sein des partis politiques, au sein des regroupements politiques, il faut déjà qu'il y ait le sens de la démocratie. Mais malheureusement, nos partis politiques, comme les regroupements politiques d'aujourd'hui, ne sont pas de véritables partis comme on le voit ailleurs, madame. Ailleurs, ce sont les partis politiques qui font vivre, les membres qui font vivre leurs partis politiques, ce sont les membres avec leurs cotisations qui font vivre leurs regroupements politiques. Mais ici, chez nous, le comportement des autorités morales vient du fait que c'est de leur poche qu'ils font vivre les partis politiques, c'est de la caisse de leur famille qu'ils font vivre leurs regroupements politiques. De telle sorte qu'à un certain moment, tous les partis politiques, tous les regroupements politiques deviennent comme des propriétés des autorités morales du fait que les Congolais n'est pas prêt à contribuer, à cotiser à la vie de son parti politique, ni en parole, ni en acte, ni en cotisation. Oui, tout cela rentre dans le cadre de l'appartenance à un parti politique, de l'appartenance à une croyance démocratique, de la participation à un Congo de demain en se disant que dans l'esprit de tolérance, dans l'esprit de participation, dans l'esprit de l'écoute, je peux vivre dans un parti politique en considérant que déjà au niveau de la base, on peut déjà commencer les essais de démocratie en soumettant certaines questions à l'Assemblée pour qu'il y ait adoption, qu'il y ait vote, mais je suis sûr et certain que les choses vont changer avec les chocs entre les partis politiques, les chocs entre les mouvements politiques, même au sein d'une même famille politique, les choses vont changer. Mais ce qu'il faut craindre, ce sont des agendas cachés, des uns comme les autres, sachant que nous sommes dans les 5 dernières années du mandat constitutionnel du président de la République. Il y aura beaucoup de choses, nous allons vivre beaucoup de choses chez les politiciens, parce que les uns comme les autres chercheront toujours à faire déchanter les autres, à créer des situations pour éviter le respect des textes, par exemple. L'unique chose qui peut sauver, comme je l'ai dit tantôt au début de l'émission, l'unique chose qui peut sauver la nation, c'est le respect de nos textes. D'abord la Constitution, les lois de la République, et pour l'Assemblée nationale et le Sénat demain, les différents règlements d'ordre intérieur règlent toutes les questions de la vie du Parlement.
Roger Ning, depuis... Merci maître, on va vous redonner la parole pour la conclusion tout à l'heure. Roger Ning, depuis Colosi, le problème reste la gestion des ambitions. Ousias Balanga, depuis Lubumbashi, dans la province du Katanga, tant que le président ne prend pas ses responsabilités, ils le bloqueront pour ce mandat encore. Je pense que les députés risquent de bloquer une fois de plus le président s'il ne prend pas ses responsabilités. Merci à Jado Kiabambi, depuis Kasumbalesa, dans la province du Katanga. Christian Moleka, on risque de se retrouver avec un bureau les candidats seraient différents, hein, seront pratiquement différents de la liste proposée par le président. C'est vraiment prévisible.
C'est probable qu'on ait, si une dynamique au niveau de la plénière continue à se mettre en mouvement, d'avoir un bureau qui ne correspondra pas à ce qu'avait pensé le président. Ce qui sera déjà un point de discorde, parce qu'on aura une hiérarchie politique qui ne correspondra pas au vrai tenant du pouvoir au niveau du Parlement. Et donc on risque d'avoir un Parlement qui sera très agité et qui ne pourra pas nous donner la sérénité dont on a besoin pour la fin de mandature. Et puis peut-être rappeler, on met aujourd'hui l'accent sur Bahati, mais cette histoire de fils d'eux, on a beaucoup de cas de népotisme au Parlement. Les G13 avaient proposé déjà à l'époque que soit inscrite l'interdiction d'aligner ses membres des familles. Mais lorsqu'on a voté la loi électorale, les députés de l'époque avaient rejeté cette disposition. Et nous sommes rattrapés par l'histoire. Aujourd'hui, ce cas de népotisme, ce n'est pas uniquement à l'Assemblée. Même au Sénat, on a un nombre de cas de népotisme qu'on trouve au niveau du Parlement.
Joseph Kongolo, la suite.
Bon, il faut d'abord dire que j'insiste sur le leadership.
Est-ce qu'on tend vers la dissolution, je ne sais pas, ou de l'Union sacrée? Vous pensez que ça pourrait arriver?
Pas la dissolution, mais la réconfiguration. Il y aura une réconfiguration, comme nous l'avions dit tout au début, en fonction du rapport de force après les élections législatives de 2023. Il y aura effectivement une réconfiguration, il y aura effectivement un changement du présidium. Bon, ça dépend du modèle de gestion qu'ils vont choisir, un présidium, ou bien carrément élargir le présidium à tous les responsables, n'est-ce pas, des plateformes. Ça dépend du modèle qu'ils vont choisir. Mais ce qui est vrai, c'est que à chaque erreur, on peut glisser, mais il faudra que ces erreurs nous servent d'exemple pour corriger notre marche vers la démocratie. Et ça, c'est très important. Il faut que nous puissions tirer des leçons et que les plateformes prochaines qui vont venir ne retombent pas dans les mêmes erreurs. Ça, c'est très important. Parce que là, on a vu que la gestion de la mission est très difficile, non seulement au niveau de la plateforme, mais au niveau de chaque, non seulement au niveau du cartel Union Sacrée, au niveau de chaque plateforme, la gestion des ambitions est très, 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 très difficile. Je crois que le premier couac viendra, n'est-ce pas, d'abord de cette élection du bureau, et ensuite du gouvernement, et après, ça sera autour, n'est-ce pas, des entreprises publiques. Et je crois qu'il y aura une réconfiguration, forcément, à partir, n'est-ce pas, de tout ce partage des responsabilités au niveau des institutions, il y aura des couacs. Mais il faudra que ces choses nous servent de leçon pour que demain nous puissions améliorer la gouvernance de nos partis politiques. Et ça, c'est très important. Deuxième élément important, c'est que l'exercice du leadership, ce n'est pas le fait d'être seulement président d'un parti, d'être fondateur, un président fondateur, mais il y a des exigences. Il y a des exigences de leadership qu'il faut tenir pour exercer une autorité sur l'ensemble. Parfois, les gens que vous êtes en train de gérer sont plus intelligents que vous, mais vous êtes leader. Il faut tenir compte de ces. Il y a beaucoup d'éléments sous lesquels il faut tenir compte. Donc, vous êtes leader, peut-être vous êtes fondateur du parti, vous financez le parti, vous faites ceci, vous faites beaucoup de sacrifices, évidemment. Mais si vous n'arrivez pas à exercer un leadership suffisamment solide à la tête de ces gens, eh ben, vous allez encore faire exploser votre structure et vous serez dans un éternel recommencement, ça ne sera pas une bonne chose. Et à la fin, vous aurez des gens très faibles, des suiveurs, des gens qui ne peuvent pas proposer quelque chose. Et ils vont stabiliser le parti, mais alors au bas de l'échelle. À ce moment-là, ça n'ira pas. Je crois qu'il faut respecter les règles du leadership au niveau des sous-ensembles.
Merci Joseph Kongolo, merci également à Serge Mutombo qui nous suit depuis Kinshasa, Gaston Goyi depuis Lomami. Maître Wenga, votre conclusion.
Merci beaucoup madame, je pense que il faudra que les députés nationaux se mettent au travail. Ils ont perdu beaucoup de temps il faut que le bureau définitif soit élu démocratiquement, sans pression, sans influence, sans corruption, morale comme financière, et que les lois de la République soient votées pour que demain le Congo puisse reprendre sa place sur l'échiquier international. Tout ce que l'on fait là, de manière égoïste, de manière personnelle, de manière privative, c'est pour remettre le pays en arrière. Le pays a besoin de décoller. Et comme nous avons opté pour la démocratie, il faut que les règles de la démocratie soient respectées, que les textes de la République soient respectés et que chacun mette l'intérêt général au devant de tout, sans des calculs, sans des agendas cachés. Comme ça, unis, nous serons forts et en face de l'ennemi, nous saurons résoudre tous nos problèmes. Parce que si on commence à se quereller autour des petits postes de responsabilité au Parlement comme au gouvernement,
merci, maître Willy Wenga. Merci, maître Willy Wenga. Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Dona Madimba, Mimi Kindou et Billy Betou. Merci à Clément Chimanga et Jonathan Fualani. Merci également à Hervé Vokia. Martin Sebouchangwe a supervisé ce programme, présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.